Jacques Lacan. Séminaire L'envers de la psychanalyse. Le 15
avril 1970. À la 5e section des sciences religieuses aux hautes études. Donc vous savez que je suis chargé de conférence. Je ne veux pas que je vous le présente, parce que je ne veux pas vous le présenter. Je me présente comme ayant été par sa grâce et sa bonté. Tout à fait dépendant de lui pendant ce temps qui s'est écoulé. J'irai environ deux jours avant notre dernière rencontre, à savoir à partir du moment où je me suis mis à vouloir, enfin, en savoir un mot, approcher de la question du livre de Céline. J'en ai parlé depuis assez longtemps pour que vous sachiez l'importance de ce livre, n'est-ce pas? Pour ceux qui viendraient par hasard ici pour la première fois. C'est le livre venu, si je puis dire, à point, ou encore, comme je me suis exprimé, comme une bague au doigt, à Freud, pour qu'il puisse soutenir cette thématique d'une mort de Moïse qui eût été un meurtre, à savoir que Moïse a été tué. Il est clair que tout ce que j'ai pu apprendre grâce à M. Capot, de la situation de ce livre, tout d'abord, par rapport à l'exégèse insérée dans l'efflorescence de ce qu'on peut appeler la critique textuelle telle qu'elle était instaurée, et tout spécialement à partir du 19e siècle dans les universités allemandes, il fallait situer ce Céline. Les lieux de ce qui l'ont précédé, puis de ceux qui l'ont suivi, après Édouard Mayer et Gressmann, avant bien d'autres, pour saisir quelle était exactement l'incidence qu'il avait amenée, dont la dimension m'était donnée par ce texte que j'ai réussi à me procurer, comme je vous l'ai signalé la dernière fois. Non sans mal, puisque aussi bien que ce livre était en Europe, enfin, vraiment tout à fait introuvable. Je finis par l'espoir de l'Alliance israélite-française. J'ai fini par recevoir de Copenhague et en avoir de ce fait un texte où j'ai fait prendre connaissance à M. Capot, qui était une des rares personnes qui en avait déjà non seulement eu vent, mais qui l'avait tenu en main. Un certain temps déjà, avant qu'il vienne lui présenter ma requête. Et donc, nous avons regardé ce texte tout spécialement sur le point où il permet à Freud de situer quelque chose qui évidemment me tient à cœur et pas forcément pour les mêmes raisons. Vous avez quelque chose à dire? Mais pas forcément pour les mêmes raisons que Freud. Ceci, bien sûr, n'a pas pu faire, parce que c'est le texte même de ces lignes qu'il comporte que ça nous est obligé à en venir à ce champ dans lequel je suis en grande ignorance. Hein. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ignore. Heureusement d'ailleurs, parce que si vous saviez tout ce que j'ignore, vous sauriez tout. Et c'est là qu'évidemment l'épreuve, enfin une tentative que j'ai faite de mettre en ordre ce que j'avais pu moi-même apprendre de M. Quinco, je me suis tout d'un coup avisé de ceci, qu'il y a une très grande différence entre savoir, sans savoir ce dont on parle, ce dont on croit pouvoir parler, et puis ce qu'il en est de ce que j'appellerais un terme qui va servir à bien expliquer ce que nous allons faire ici. Il va y avoir pour la deuxième fois une rupture quant à la façon dont je m'adresse à vous. La dernière fois, vous avez subi une rude épreuve, même jusqu'au point que certains avaient émis l'hypothèse que c'était pour aérer un peu la salle. Ouais, le résultat est médiocre. Alors, cette fois-ci, je pense qu'au contraire, j'aurais plutôt des raisons de rester, parce que si je vous offrais une seconde fois ce que grâce à M. Quinco je peux faire aujourd'hui, ce sera une autre manière. Et disons que, à tout prendre, je me suis senti à la pensée de manier, parce que nous avons bien été forcés de manier, à savoir des lettres hébraïques. La dernière fois, j'ai inséré dans ce texte que je vous ai lu cette définition du Midrash, qui est celui d'un rapport à l'écrit, soumis à certaines lois qui nous intéressent éminemment, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, dans l'intervalle d'un certain rapport à l'écrit à une intervention parlée qui prend appui, qui s'y réfère. L'analyse tout entière, j'entends la technique analytique, peut d'une certaine façon s'élucider de cette référence, être considérée comme ce jeu, appelons-le entre guillemets, d'interprétation, puisque le terme est employé à tort et à travers, depuis qu'on nous parle de conflit des interprétations, par exemple. Comme s'il pouvait y avoir conflit entre les interprétations, puisqu'au plus les interprétations se complètent, les interprétations jouent précisément de cette référence, ce qui importe, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, falsum, ce qui en tombe avec toute l'ambiguïté que autour de ce mot peut s'établir, de la chute. Et du faux j'entends, du contraire du vrai. Je dis que même à l'occasion, ce faux, une interprétation peut avoir sa portée de déplacer le discours. Eh bien, que nous allons faire, et ceci, je crois que nous allons souhaiter mieux de transmettre ce dont il s'agit, qui ne saurait pour moi aucunement dans ce champ répondre à un savoir, mais plutôt ce que j'ai appelé cette mise au parfum. Et bien, je vais continuer l'opération de Bambou, je vais continuer à essayer de me mettre au parfum sous la forme qui n'a rien de fictif, de questions qui restent forcément inépuisées, qui sont les mêmes que j'ai posées à M. Quinco ces jours derniers. Et à ce propos, je serai au même titre que vous. Dans ce rapport de la mise au parfum de ce qui est un certain savoir, qui est très précisément celui de l'exégèse biblique, j'ai besoin de vous dire que M. Quinco est à cette cinquième section au titre des religions sémitiques comparées, Je crois par l'expérience que j'en ai faite, personne ne peut assurément dans ce domaine être plus adéquat, au sens où je l'ai trouvé moi-même, à me faire sentir ce qu'il en est de ce qu'est l'approche d'un Céline quand il tire des textes d'Osée, et vous verrez par quel procédé, quand il tire des textes d'Osée, une chose que lui-même a bien envie de faire sortir, il a ses raisons pour ça, et ses raisons nous importent là-dessus que ce que m'a apporté M. Caco est également précieux. Je parlais tout à l'heure d'ignorance. Pour être un père, j'entends pas seulement un père réel, un père du réel. Il y a assurément des choses qu'il faut férocement ignorer. Il faudrait d'une certaine façon ignorer de ce qui n'est pas de ce que j'ai essayé dans mon texte la dernière fois de fixer comme le niveau de la structure. Celui-ci étant proprement parlé et défini de l'ordre des effets du langage. C'est là qu'on tombe, si je puis dire, sur la vérité. Le « sûr » pouvant aussi bien être remplacé par « de », qu'on tombe de la vérité. À savoir que chose singulière à envisager cette référence absolue, on pourrait dire que celui qui s'y tiendrait, mais bien sûr il est impossible de s'y tenir, ne saurait pas ce qu'il dit. Ce n'est certainement pas là dire quelque chose qui d'aucune façon spécifique ou pourrait servir à spécifier l'analyste. Ce serait bien sûr le maître, je voudrais dire plus exactement, vous êtes tout prêt à me dire le maître au rang de tout le monde, de savoir que qui sait ce qu'il dit. Mais ce serait là une erreur. Ce n'est pas parce que tout le monde parle que tout le monde dit quelque chose. C'est de toute autre référence de savoir dans quel discours on s'insère pourrait s'agir à la limite de cette position en quelque sorte fictive. Il y a quelqu'un qui répond à cette position. Quelqu'un que je vais nommer, sans hésiter, parce qu'il me paraît essentiel. Essentiel à l'intérêt que nous, analystes, devons porter à ce qu'il en est de l'histoire hébraïque et de ce qui fait l'analyse n'est peut-être pas concevable à être née ailleurs que de sa tradition, que de quelqu'un qui y est né et qui, comme je vous l'ai souligné, insiste sur ceci qu'il n'a proprement confiance pour faire avancer dans le champ qui est celui qu'il a découvert, justement, que ces Juifs qui savent lire depuis assez longtemps, et qui depuis assez longtemps vivent, c'est le Talmud de la référence à un texte. Celui ou ce que je vais nommer qui réalise cette position radicale d'une ignorance féroce, il a un nom. C'est Yahvé lui-même. caractéristique de Yahvé dans son interpellation à ce peuple choisi est proprement ceci, qu'il ignore tout férocement de tout ce qui est existant au moment qu'il s'annonce, de certaines pratiques, de certains rapports qui sont soutenus, des religions déjà existantes, foisonnantes, et dont nous devons dire qu'elles sont fondées sur un certain type de savoir. Savoir sexuel, précisément, et quand nous parlerons d'oser tout à l'heure, nous verrons à quel point c'est à ce titre qu'il les invective. Tout ce qu'il en est d'un rapport, en quelque sorte, mêlant, avec des instances surnaturelles, la nature elle-même, qui en quelque sorte en dépend, de quel droit avons-nous de dire que ceci ne reposait sur rien, que le mode des mouvoirs, le Baal, qui en retour fécondait la terre, ne correspondait pas à quelque chose qui aussi bien pouvait avoir son efficace, et pourquoi pas. Simplement, parce qu'il y a eu Yahvé, et qu'un certain discours s'est inauguré, que j'essaie cette année d'isoler comme l'envers du discours psychanalytique, à savoir le discours du maître, à cause de ça précisément, nous n'en savons plus rien. Est-ce que c'est la position que doit avoir l'analyste? Sûrement pas. L'analyste, est-ce que j'irais à dire, que j'ai pu l'éprouver sur moi-même, l'analyste n'a pas cette passion féroce qui nous surprend tellement. Quand il s'agit de Yahvé, c'est que Yahvé se situe au point le plus paradoxal. Au regard d'une perspective autre, qui serait celle, par exemple, du bouddhisme, des trois passions fondamentales dont il est recommandé de se purifier, à savoir l'amour, la haine et l'ignorance, vous pouvez constater, c'est ce qui saisit le plus cette histoire, cette manifestation religieuse unique, qu'il n'est dépourvu d'aucun. Amour, haine et ignorance, voilà en tout cas des passions qui ne sont point absentes à proprement parler de son discours. Ce qui distingue très évidemment la position de l'analyste, et je n'irai pas aujourd'hui à écrire sur le tableau à l'aide de mon petit schéma, celui où l'objet petit a est en haut et à gauche. La position de l'analyste, très évidemment, c'est là le seul sens qu'on puisse donner à la neutralité analytique, et de ne pas participer de ses passions. Ce qui lui fait tout le temps être là, dans cette zone incertaine, où il est vaguement en quête d'une mise au parfum, d'une mise au parfum de ce qu'il en est, des savoirs que pourtant il a proprement parlé à étudier. C'est bien de cette approche du dialogue de Yahvé avec son peuple que ce dont il s'agit aujourd'hui, à savoir de ce qui a bien pu se passer dans la tête de Céline, et aussi de ce que peut nous révéler la rencontre qui se trouve de ce fait établie entre ce que recherche Freud, qui est proprement cette ligne, mais où il s'arrête, comme je vous l'ai dit, où il échoue, où il fait de la thématique du père cette espèce de nœud mythique dont c'est proprement parlé une des visées de ce que j'ai maintenant à vous développer, dont il fait en quelque sorte un court-circuit et pour tout dire un ratage. Vous l'avez dit, le complexe d'Œdipe, c'est le rêve de Freud. Comme tout rêve, il a besoin d'être interprété. Et très précisément de voir où se produit cet effet de déplacement qui est à très proprement parler à concevoir comme celui qui peut se produire du décalage dans une écriture. Le père réel, si l'on peut essayer de le restituer de l'articulation de Freud, s'articule proprement avec ce qui ne concerne que le père imaginaire, à savoir l'interdiction de la jouissance, que d'autre part il soit masqué, ce qui fait de lui l'essentiel, à savoir cette castration. À proprement parler, que je visais à l'instant en disant qu'il y avait là un ordre d'ignorance féroce, j'entends dans la place du père réel. C'est ce que je pourrais, j'espère, vous démontrer d'autant plus facilement qu'aujourd'hui, nous aurons à propos de Céline clarifié un certain nombre de choses. C'est pourquoi je me permettrais d'abord de poser à M. Dacot quelques questions. Certes, c'est bien parce que je vais lui exprimer d'une façon que le fond de notre problème ici sur ce point, c'est comment, pourquoi Freud a-t-il eu besoin de Moïse? Il est évident qu'il est essentiel pour le savoir d'avoir quand même une petite idée de ce que ça signifie Moïse. Et le texte de Céline commence effectivement par ceci, par la question « Vers va Moses, qu'est-ce qu'était Moïse ?» et par résumer sur ceux qui l'ont précédé, sur ceux qui sont là en train de travailler avec lui, prête comme position diverse, il est certain qu'elles sont exclues de ces positions ne soient clarifiables, en fonction de savoir depuis quand il y avait été là. S'il y avait, était déjà le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'il s'agisse là d'une tradition de révolution intensive, c'est évidemment tout différent de ceci, que cette tradition ait pu être en quelque sorte rétroactivement reconstituée, ceci, par le fondateur de religion que serait alors Moïse en tant que pied de l'Horeb, ou plus exactement sur l'Horeb lui-même, il aurait reçu, remarquez-le, écrite les tables de la loi. Le livre de Céline tourne à proprement parler autour de ceci. Mose un seine bedeu, tourne sur die israélitische jüdische religiöse Geschichte. Pourquoi a-t-il fallu que Céline nous présente un Moïse tué? C'est une question. Je ne voudrais même pas l'aborder. Je vais en laisser entièrement le champ à M. Dacot. Il est certain que ceci est lié étroitement au fait que Moïse est considéré comme un prophète. Pourquoi est-ce qu'au titre de prophète qu'il doit être tué, plus exactement, Céline le pense comme ayant subi la mort d'un martyr au titre de ce qu'il est prophète, Voilà ce que déjà je pense, monsieur. Vous me permettez de dire, de présenter d'abord le personnage dont nous parlons, puisque nous sommes ici non pas pour expliquer des textes que José, je crois qu'il faudrait y rester toute l'année, mais pour expliquer une opinion sur José qui est celle d'Ernst Sellin. Ernst Sellin est le type même de ses professeurs d'université allemande du début du siècle, du 19e siècle. Il était né en 1867 et il a fait une carrière absolument rectiligne comme professeur d'Ancien Testament dans les facultés de théologie protestantes d'Allemagne. À l'époque, en 1920, je crois, il est professeur ordinaire d'Ancien Testament à l'Université de Berlin. Il n'est peut-être pas inutile de savoir quelque chose de son idéologie, si on peut dire. Sellin était un représentant assez typique du protestantisme évangélique, ou que nous appellerions plutôt libéral aujourd'hui, en cette Allemagne de la fin du 19e siècle. La religion d'Israël est vue avant tout par cette tendance comme, si vous voulez, une leçon de morale. On insiste toujours sur les éléments éthiques dans la révélation. Or, ces éléments éthiques, nous les trouvons, et c'est l'opinion courante du temps de Sellin, d'une part dans ce qu'on appelle les grands prophètes, mettez les Isaïe, Jérémie, et puis les petits prophètes aussi, enfin les 12 petits prophètes, dont Amos et Osée sont les représentants les plus anciens. Et d'autre part, cette révélation morale se trouve dans le décalogue. Le décalogue, en particulier, ce qu'on appelle le décalogue éthique d'Exode 20, ce que vous connaissez comme les 10 commandements. Les 10 commandements, Sellin les attribue, et il n'est pas le seul, à Moïse lui-même. Et alors, comment relier l'un à l'autre ces deux sommets de la révélation vétérotestamentaire? Sellin pose ceci, alors fait une sorte de postulat. Les prophètes, les grands prophètes, écrivains, sont les héritiers de la tradition mosaïque, de la véritable tradition issue de Moïse et comportant, véhiculant également des éléments authentiques sur le sort, la vie de Moïse qui est le premier prophète. Il y aurait donc, si vous voulez, continuité entre Moïse et Osée, puisque nous parlons de lui. Deuxième élément qui a déterminé sa réflexion dans le mot Sein seine Bedeutung et qui l'a conduit à affirmer, à avancer cette thèse extrêmement particulière, je m'empresse de le dire. La thèse d'une mort de Moïse n'a jamais été soutenue que avant lui, que par Goethe, dans un passage que je ne connais pas mais qui a été repéré, et que Sellin lui-même ne connaissait pas. C'est quelques années plus tard, Karl Bude, un des collègues de Sellin, qui a fait remarquer que cette idée d'une mort de Moïse avait déjà été lancée par Goethe. Alors pourquoi la mort de Moïse? Je me permets de refaire à l'inverse, si l'on veut, la présentation du livre Mose und seine Bedeutung de Ernst Sellin. Ce qui a quelque fait significatif. Au moment où Sellin écrivait son Mose und seine Bedeutung, paru en 1922. Il venait d'achever un commentaire des 12 petits prophètes, comprenant le livre d'Osée, naturellement, qui a été publié la même année, 1922, dans une série de commentaires exégétiques qu'on appelle le K.A.T. Commentar zum Alten Testament. Seul prophète de le livre des 12 petits prophètes. Dans ce livre, dans ce commentaire sur Osée, il n'est pas question une minute de la mort de Moïse. Il passe sur les passages qu'il discute tout au long dans le livre de Mose et de Peter et tout. Il n'est pas mis en œuvre une exégèse tout à fait différente. Il n'a pas encore fait, si l'on peut dire, cette découverte, il n'a pas encore conçu cette hypothèse du noir de l'œil. Et alors, je pense que c'est après avoir achevé la rédaction de son commentaire du mot de sur Moïse que Céline est revenue, en aiguë à cette idée en réfléchissant sur autre chose. Et cette autre chose, c'est un autre passage biblique, tout à fait différent d'Osée, mais qui est également prophétique, c'est le Deutéro-Isaïe, les chapitres 40 et suivants du livre d'Isaïe, et en particulier les chapitres, fin du chapitre 52 et du chapitre 53, collection d'un prophète du 6e siècle, dans laquelle il est question d'un serviteur de Yahvé dont les souffrances ont une valeur expiatoire pour les péchés du peuple. Considéré par la tradition chrétienne et également par cette tradition exégétique protestante comme un des sommets également de la révélation vétérotestamentaire, puisque ça introduit l'idée de la mort rédemptrice, et qu'il y a certainement dans l'Évangile ou dans les écrits chrétiens appropriation de la figure du serviteur souffrant sur le personnage de Jésus. Ça, c'est incontestable. Alors, à partir de là, vous voyez l'importance qu'il attache à Moïse, l'importance qu'il attache au prophète, Osée jusqu'au Deutéro-Isaïe, qui est également un prophète, l'importance qu'il attache au prophète comme successeur héritier de Moïse. Céline, je crois, est partie de cette, a fait cette découverte, le serviteur souffrant du Deutéro-Isaïe, dont la mort à valeur rédemptrice, c'est Moïse lui-même. Et à partir de là, il a retrouvé, s'est efforcé de retrouver dans les livres prophétiques antérieurs des allusions à une mort de Moïse. Et c'est là qu'il a réinterprété un certain nombre de passages d'Osée de manière à leur faire dire, je dis bien à leur faire dire, qu'il y a des questions d'une mort de Moïse. Osée, n'est-ce pas, un des plus anciens prophètes, gardien de la tradition prophétique, c'est-à-dire de la véritable tradition sur Moïse, aurait exprimé, à vous, il faut bien le dire, couvert, et même tellement couvert qu'ils n'y sont probablement pas, n'est-ce pas, la mort de Moïse. Qui n'ont jamais été lus avant Céline et qui n'ont jamais été lus depuis Céline. Mais vous ne pouvez pas, je crois que c'est évidemment un tout autre un genre d'étude à laquelle vous n'êtes peut-être pas soutenu, mais c'est assez amusant de voir comment a procédé Céline. Et ça donne une idée, d'ailleurs, il ne faut pas lui jeter la pierre. Les exégètes de cette époque-là considéraient en quelque sorte que les copistes de la Bible ne savaient pas l'hébreu. Et c'est un peu grossier ce que je dis, mais finalement c'est ça. On disait c'est du mauvais hébreu, donc il faut corriger. Alors le résultat, on prenait une phrase évidemment énigmatique, très difficile, parce que cet hébreu du 8e siècle était pratiquement surtout un hébreu poétique, était devenu une langue morte. Et les commentaires rabbiniques, les rabbins et les auteurs juifs du début de notre ère, les traductions, la traduction des Septante, par exemple, qui traduit cet effet par des juifs qui savaient l'hébreu, et bien ils ne comprenaient pas plus que nous. Alors, ils avaient pourtant le même texte, très souvent. Alors à partir de là, en disant le texte de l'hébreu, le texte de la Bible hébraïque est corrompu, corrigeons-le, remplaçons un mot qui est paraît bizarre, remplaçons-le par un mot bien connu, et comme ça on arrive quelquefois, c'est la règle générale, à banaliser le texte, à faire dire des pauvretés dans le texte de la Bible, et tantôt on arrive à lui faire dire, et c'est le cas de Céline, exactement ce que l'exégète voulut qu'il dit.
Antérieur,
oui, puisque les manuscrits, enfin, les manuscrits hébraïques les plus anciens sont la Bible complète, sont du 9e siècle de notre ère, et que la version des Septante est certainement élaborée avant l'ère chrétienne. Mais il apparaît que, évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais je crois personnellement, et une certaine expérience, que la version grecque des Septante a très souvent sous les yeux, ou dans l'oreille, le même texte que la Bible imprimée, la Bible massorétique, la Bible traditionnelle, mais que quelquefois, ne le comprenant pas, ils interprètent. C'est comme ça qu'il faut envisager l'étude des anciennes traductions de la Bible. Alors, je ne sais si nous continuons à... Je crois que vraiment, si vous pouviez faire passer dans cette assemblée une idée de... Enfin, des manipulations autour de quelques mots vraiment clés. Alors, pour c'est le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le moïsme céline, voilà, il faut partir, je crois, de deux textes, des textes d'Osée, également d'un autre texte que je vous présenterai d'abord très rapidement, qui est Nombre 25, le chapitre 25 des Nombres. Texte très curieux, très difficile, certainement remanié par d'anciennes traditions, avant bien entendu de connaître sa fixation par écrit dans la Bible, et qui raconte, vous savez, l'idolâtrie des Israélites dans les plaines de Baal-Péor, l'idolâtrie dans les plaines de Moab, de Baal-Péor, et ceci se passant dans un endroit appelé Chittim. Texte est très difficile. Mais je me permets de vous rappeler, de vous lire la fin. C'est pas Nombre 25, je lis une traduction, le texte est facile et nous pouvons prendre là n'importe quelle traduction. Pendant qu'Israël demeurait à Chittim, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les troupes de Moab. Je passe, n'est-ce pas je passe dans le texte. Et d'ailleurs, le texte est extrêmement public. Alors, la colère de Dieu s'enflamme contre Israël. Voici qu'un homme des enfants d'Israël. Ah, et alors là, un passage tout à fait curieux. Un homme des enfants d'Israël amène vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À ce moment-là, le prêtre Pinhas, l'ancêtre du sacerdoce de Jérusalem à l'époque royale, l'ancêtre fictif, Pinhas perce l'homme d'Israël et la femme Madianite par le ventre. Et cela fait suspendre un fléau, on ne sait pas trop lequel, probablement ça a l'air d'être une peste, mais on n'en est pas très sûr, et le texte glisse là-dessus, lui aussi. Suspend un fléau, c'est pas qui c'était le fléau qui avait été déclenché, semble-t-il, pour punir, en punition de l'idolâtrie dans les plaines de Baal-Péor. Bon. Ce texte est très important, mais pour une autre raison, parce qu'il fonde, je le signale en passant, il fonde l'élection d'une dynastie sacerdotale qui prétend remonter à Pinhas. Pinhas, n'est-ce pas, reçoit à ce moment-là une alliance de sacerdoce, c'est-à-dire la garantie de perpétuation du sacerdoce dans sa lignée, pour le prix du zèle qu'il a déployé en punissant les Israélites qui avaient péché dans les plaines de Moab. Mais alors, ici, au verset, à partir du verset 14, une autre indication qui paraît être une espèce d'incident. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était siméonite. Et la femme Madianite s'appelait Koski. Hypothèse de Céline. Le texte a été torturé. On a voulu effacer le souvenir de toute autre chose. Et ce tout autre chose, c'était ceci. Dans ce lieu appelé Chittim, dans les plaines de Moab, l'homme qui avait été mis à mort pour expulser le fléau, la peste qui frappait Israël, n'était pas ce personnage qu'on appelle Zimri, de la tribu de Benjamin, ou de Siméon, pardon, dont on parle juste par ailleurs, c'était Moïse lui-même. C'était Moïse. Et voilà la mort rédemptrice de Moïse. En effet, il ajoute quelques arguments. Il est bien évident que qui est-ce qui a épousé une Madianite, c'est Moïse. Puisque dans la tradition, la femme de Moïse, c'est Pora, est la fille d'un prêtre de Madian. Donc, cet époux d'une Madianite, dont on a dissimulé aussi le nom, puisque on l'appelle Cosby,
Prenons pas de Sipora, s'il y avait Sipora, ce serait trop facile. Cosmique est un sobriquet injurieux, dérivé du nom Anon qui signifie le mensonge. Donc, vous voyez, les prêtres, la tradition sacerdotale, qui est à l'origine du chapitre 25 des noms tels que nous le connaissons, aurait éliminé Moïse et l'aurait remplacé par cette espèce de bouche-peau qu'on appelle Zimri. Mais si l'on reconstitue la tradition que Zélim prend authentique, il était question ici d'un meurtre de Moïse à Chittim. Tout ça, je l'expose, n'est-ce pas, mais encore une fois, c'est absolument arbitraire ce qu'est dit. Et alors, à partir de là, nous pouvons regarder les passages d'Osée. Il y a trois passages qui sont particulièrement significatifs. Le premier est au chapitre 5. Voyons, ce sont les versets. Le chapitre 5, c'est... Ah oui, merci. Chapitre 5, 2. Oui. Alors là, il faut dire, je renonce à traduire l'hébreu de 5, 2. Osée 5, 2. Osée chapitre 5, verset 2. Je pourrais vous lire l'hébreu, mais reconnaissons, il est inintelligible. Et la moindre honnêteté est de traduire par les petits points. Osée 5, 2. Je lis une traduction, n'est-ce pas, c'est une des dernières parues en français, c'est la traduction dite de la Bible œcuménique, qui en principe est extrêmement, telles sont les consignes, au moins être le plus près possible du texte hébraïque. Bon, voilà 5.1, écoutez ceci, vous prêtres, soyez attentifs, maison d'Israël, maison du roi, prêtez l'oreille, c'était à vous rendre justice. Or, vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor, c'est-à-dire que vous avez fichu les gens dedans, en quelque sorte. Verset 2.
Non, ça va pas plus long sur ce qui s'est passé à Mitzpah.
Ah si, ça c'est une allusion à des épisodes de... Mitzpah était un lieu de... À l'époque pré-royale, Mitzpah était un lieu de rassemblement, si vous voulez, tribal, où la justice était rendue. Pour le Tabor, c'est plus mystérieux. Enfin, alors, ensuite, notre Bible, traduction si quelque possible, n'est-ce pas, dit ceci. Les infidèles ont creusé une fosse profonde. Profonde. Idéalement, c'est de ces deux mots que je vais vous transcrire. Je vais transcrire, enfin, s'il y en a d'entre vous qui lisent l'hébreu. Shahata. Shahata. C'est une avec et Amigo. Je transcris. Shahata, Setim et Amigo. Ouais, le verbe et Amigo, ils ont creusé profondément, ils ont rendu quelque chose profond. Ce mot Setim, on traduit par infidèle, sujet de Amigo, les fidèles ont approfondi, ont fait quelque chose de profond, et les infidèles, pardon, c'est ça peut aller. Mais Shahata, tout ce qu'on veut dire, c'est que ce nom, c'est un substantif, dont on ne voit pas la fonction dans la phrase, mais qui se rattache à une racine verbale, Shahat, qui signifie égorger, massacrer. Voilà ce que ça vient chez Selim. Oui, alors je lis la traduction, je termine, je lis la traduction, notre traduction back to date, là. Les infidèles ont creusé une fosse profonde, contresens. Oui, on peut dire des infidèles ont creusé, mais la fosse profonde, non. Il n'y a pas de fosse profonde dans ce texte, parce qu'on a confondu Shahata et Shahat. avec un tzav. C'est-à-dire que c'est une consonne emphatique avec une consonne simple. Et il n'y a pas de force profonde dans ce texte. Et alors voilà ce que Zéline en a fait. Je l'ai écrit en dessous. Chahat. Alors ça, si c'est Zéline, n'est-ce pas? Chahat. Ashitim. Avec un shin et vous pouvez garder. Ce qui donne, alors, Shahat Ashitim et Miku, ils ont creusé profondément une fosse ou la fosse, Shahat avec un tab, de Shittim. Et alors nous retrouvons le Shittim de nombre 25, verset 1, où, qui est selon l'hypothèse de Zénine, le lieu où Moïse aurait été assassiné. Voilà. Premier exemple. Ce n'est pas tout, parce que vous regardez également si ça ne vous ennuie pas trop. Et deux autres passages que Céline invoque pour son hypothèse. Alors, l'autre passage, c'est Osée 9, versets 7 à 14. Livre d'Osée 9, je dis là, c'est un passage un peu plus facile. Que là, franchement, ce verset 2 de Osée, pour le moment, 2 du chapitre 5 d'Osée, pour le moment, je ne le traduirai pas, n'est-ce pas? C'est pas la peine. Il est certain qu'il y a un mot qui signifie, comme le petit commentaire de Ben Ezra, n'est-ce pas, qui évoque un massacre. On a creusé, et des infidèles ont creusé, ont approfondi, mais on ne sait pas quoi. Je ne sais pas si le texte est corrompu, sinon tout simplement, nous ne le comprenons plus. Et les sept ans ne le comprenaient pas davantage. Deuxième passage, dont nous disions Osée 9, 7, 14. Alors là, je dis, je ne me rappelle plus, mais c'est ça, les sept ans parlent d'un lacet, des lacets des chasseurs.
Ah non, c'est plus loin, c'est fini. Le verre de Moshachat, est-ce qu'il y a des
passés avec un peu de chance?
Ah oui, c'est ça.
Coupure milieu de bande.
Alors, chapitre 9, versets 7 à 14, oui, c'est un passage qui semble parler du mépris dans lequel est une prophète. Les jours du châtiment sont arrivés, les jours de rendre compte sont arrivés, qu'Israël le sache, que le prophète devient fou, l'homme de l'esprit délire, à cause de la grandeur de ton crime et de la grandeur de l'attaque que tu subis. La sentinelle d'Éphraïm est avec mon Dieu, c'est le prophète. On lui tend un piège sur tous ses chemins, on l'attaque jusque dans la maison de son Dieu. Oui, je prends d'abord le verset. Il est question, au verset 7, d'un prophète. Ce prophète, je crois qu'à peu près tout le monde, et ça paraît être, si vous voulez, l'interprétation la plus obvie, reconnaît que c'est une manière dont Osée se désigne lui-même, ayant été victime de la vindicte de ses contemporains, du mépris de ses contemporains. Pour Céline, dès qu'il voit le mot prophète, ça y est, ils sont dessus, c'est Moïse. Et alors, voilà comment s'arrange le verset 8, qui n'est pas facile non plus, mais voilà, je vais recommencer à vous mettre le texte de la Bible sur une ligne et sur l'autre ligne, ce que Zéline en a fait. Ah oui, sauf Ephraïm, l'Évangile avec Elohaïe. Mon Dieu. Bon, je mets une pause, je crois que ce serait. Alors, 9, 8A et 8B, puisque chaque vers hébraïque, chaque verset se divise en deux hémistiches par des accents, par des points de ponctuation. Alors, Navi, le prophète, par Yahush, Alcool, de Rata, donc un peu importe. Peu importe, cette fin de la tête. Vous voyez ici, ils sont faits, et qui, Ephraim, Gim, Elohai, avec mon Dieu, littéralement, et épiant. La sentinelle d'Ephraim, ou celui qui est qui en Ephraim, est avec mon Dieu, et Navi. Il faut probablement comprendre dans la suite le prophète, et un piège tendu, le prophète, et c'est une phrase nominale sans copule, n'est-ce pas? Le prophète est un piège tendu sur tous ses chemins. Eh bien, voilà ce que ça devient chez Zéline. Dommage que je n'ai pas de terre rouge, parce que je pourrais dire, mais ça ne vous fait rien. Je vais vous déranger. Oui, le Navi, c'est-à-dire l'Iséline, n'est ni osé, ni un nom collectif. Il dit ceci, Ephraim s'est fait, Ephraim a regardé, pas, et ensuite, Im, on peut traduire à la rigueur par Ber, Orel,
c'est-à-dire qu'il a perverti,
Navi.
Il a perverti
le Het et le Hé, et de Elohaï, mon Dieu, il tire le substantif Orel, ou si on veut son pluriel, Orolai, qui signifie l'attente, T-E-L-T-E, ou l'étente. Ephraim regarde vers l'attente du prophète, ne se s'attarder pour lui faire un mauvais coup. Donc, et alors ensuite, plus loin, il retrouve au verset suivant.
N'est-ce pas le mot chitim?
Toujours dans ce chapitre 9. Oui, il y a un mot qui signifie magnastema. Signifie adversaire. Voyons, c'est dans quel contexte. Oui, Mastema, le Beit et l'Orav, à quelqu'un qui attaque, n'est-ce pas, un adversaire dans la maison de son Dieu. N'est-ce pas, c'est ce qui est en parallèle au piège sur les chemins que nous avons vus tout à l'heure. Et le verset de ceci, n'est-ce pas, c'est le verset.
Alors, 9, 8.
Le 8, c'est la fin du verset 8 et verset 9. 9, 9. Et Miku, et là nous retrouvons quelque chose que j'ai déjà vu tout à l'heure. Et Miku, Chirhaïtou. Chimer Adiba. Et Eliku Chirhaïtou, verset 9, de poser 9. Et Eliku Chirhaïtou, ils sont allés jusqu'au fond de la corruption, traduit notre version, c'est-à-dire ils ont fait quelque chose profondément. Et Eliku Chirhaïtou, ils se sont corrompus. Bon, et alors voilà, Céline, maintenant. Alors, d'abord, ce Maslema, il le dit. Pachitim. Ah oui, oui, ça c'est important. Pachitim, toujours la même histoire, le Chitim de nombre 25, verset 1. Et Eliku.
Je crois que c'était plus qu'il ça, peu importe.
Et Eliku, et ils ont approfondi, et au lieu de Chirhaïtou, il garde évidemment les consonnes, mais il lit Chahato au lieu de Chirhaïtou. Chirhaïtou est un verbe à la troisième personne du perfet qui signifie qu'ils se sont corrompus, et Chahato est un substantif accompagné du suffixe de troisième personne masculin qui signifie sa fosse. À Chittim, ils ont creusé sa fosse, la fosse de Moïse, naturellement. Et alors, c'est pas fini, voilà peut-être le texte de Osée, qui lui est, aurait, si l'on peut dire, une certaine puissance de conviction, mais enfin, un peu moins, qui serait un peu moins faiblement incarné que les autres, par Zédine. C'est au chapitre 12, fin du chapitre 12, début du chapitre 13, d'Osée. Il est incontestablement question de Moïse dans ce passage. Et Moïse appelé prophète. Je vous dis la fin. Il était question, n'est-ce pas, dans ce qui précède, du patriarche Jacob. Et puis, nous passons à Moïse. Ce qui paraît tout bien de rapport, c'est que la transformation de l'Élohim, c'est-à-dire de Dieu, dans le morel, la langue, a été faite par d'autres commentateurs.
Oui, c'est possible. C'est possible, mais vous savez, Zéline n'est pas le seul de son espèce à travailler comme ça. Je vous dis quand même aller un peu plus loin que les autres. Non, on n'en tire pas de questions. Aussi hardi.
Chapitre 12. Oui, Jacob s'est enfui aux plaines d'Aram.
Allusion à l'épisode de Genèse 29, n'est-ce pas?
Pour une, et Israël, c'est-à-dire Jacob, c'est le même nom repris, a servi à travailler, si vous voulez, pour une femme, Léa et Rachel. Et pour une femme, il s'est fait gardien de troupeau. Littéralement, il a gardé, Shamar. Mais par un prophète, le Seigneur a fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé, Mishmar. C'est pas un jeu de mots dans lequel on met en comparaison l'action de Dieu par Moïse et l'action de Jacob pour avoir ses femmes. C'est pas, vous avez les constructions des versets 13 et 14 sont un très beau parallélisme, très conscient, et se terminant l'un et l'autre par un mot, le verbe Shamar et Nishma. Mais là, il est certain que le Navi, le prophète dont il est question au verset 14, a été c'est Moïse, lui qui a fait monter Israël d'Égypte. D'ailleurs, ce n'est pas le seul cas, des fois où Moïse est appelé prophète, c'est caractéristique de ce passage d'Osée et de la tradition du Deutéronome. Donc Deutéronome, n'est-ce pas, et on sait qu'il y a certainement des liens entre Osée et le Deutéronome qui lui est un peu postérieur. Et alors, le verset 13, c'est là, et découpé le verset 13 du chapitre 12 et le verset 1 du verset 13. Je vois encore vous allez voir qu'au fond, la liberté que Céline prend avec ce texte ne le rend pas plus convaincant que les interprétations qu'il tirait des chapitres 5 et du chapitre 9.
Voyons 12, 14.
Il a irrité Ecaïs. Éphraïm, alors sujet, Éphraïm a irrité. Tamourim, hein, ben ça c'est ennuyeux. Quelque chose qu'on pourrait comprendre, Ephraïm a hérité Tamourim amèrement. Un substantif, évidemment pluriel, mais qui peut être employé adverbialement, d'une manière amère. Enfin, la racine d'amertume est certainement dans ce mot-là. Reversera son sang sur lui, le hephato, et son opprobre, je continue, Yashiv rendra à lui l'eau adonnable, son Seigneur. Oui, tout ça, c'est un verset qui n'est pas précis, mais qui peut très bien, qui peut quand même se comprendre. Ephraïm, Ikris, a peiné ou a affligé Tamourim de manière amère. Il faut suppléer un complément, il a affligé quelqu'un qui est probablement son seigneur. Adonab, qui est le dernier mot du verset, mais qui peut être mis, ça est souvent un facteur commun dans deux hémistiches.
Coupure milieu de bande.
Le verset suivant, Yitosh, il rejettera, sujet probablement Adonab, son seigneur, qui est le sujet commun des deux verbes de l'hémistiche 14b, son seigneur rejettera son sang sur lui. Rejeter le sang sur quelqu'un, c'est une formule juridique fixée. Pas qui est assez long. On ne peut pas faire l'étude ici, ce serait beaucoup trop loin, mais ça implique, n'est-ce pas, un châtiment. Et Yashiv le Hephato, et Yashiv l'eau, il lui rendra, le Seigneur rendra à Ephraïm, Hephato, sa honte, la honte qu'il a commise, l'acte honteux qu'il a commis, le rétribuera pour son comportement honteux. Chapitre 13, verset 20. C'est ce qu'il nous reste à voir. C'est la suite du développement précédent. D'après Céline, mais ça n'est probablement pas ça, que d'Abder, quand on parlait, que d'Abder, Ephraïm, peut-être. Ah, ça c'est un mot difficile. Je comprends que ceci, n'est-ce pas, lors du parler d'Ephraïm, pendant qu'Ephraïm parlait, peut-être, substantif, tout simplement, qui est unique, une seule fois dans la Bible, mais qu'on trouve dans l'hébreu de Qumran, une fois, et qui signifie tremblement. Vraiment comprenant, n'est-ce pas, quand Éphraïm parlait, requête, c'était la terreur, le tremblement. C'est une expression elliptique, mais qui est tout à fait constante en poésie hébraïque, en poésie sémitique archaïque en général, n'est-ce pas, ces formules extrêmement concises où il n'y a pas un mot de trop. Quand Éphraïm parlait, c'était la terreur, ou le tremblement, verset 13b, 1b, Nassa ou. Ah, ça c'est difficile. Nassa ou. Œil d'Israël. Là, ce verbe Nassa qui signifie porter, élever. Il portait en Israël. Mais qui peut être quelquefois, je crois, une ellipse. Pour signifier, on a l'expression Nassa Kol, lever la voix, qui vient à dire parler. Alors, quand Israël. Quand Éphraïm parlait, c'était la terreur, et il levait, je sais quoi, il levait la tête, il levait la parole, en Israël. C'est une expression elliptique. Et alors, 13, voilà maintenant, 13b, je suis obligé d'écrire ici, n'est-ce pas, c'est deux. Vous avez donc deux petits membres de phrase dans 13.1a, 13.1b, va. Yahasham, je l'écris, j'ai des mots sur les uns sur les autres, mais ça n'est pas, ils sont en réalité continus. Yahasham, Barbaal, Yamot. Mais il a péché, il a péché par Baal, et il est mort. Éphraïm a péché par Baal, n'est-ce pas l'idée? L'idée du verset 13 est assez claire. Autrefois, Éphraïm était un personnage redouté, mais il a péché par Baal et il est mort. Et alors voilà ce que ça devient chez Élim maintenant, tout ça. C'est assez compliqué, parce qu'en plus, non seulement il corrige un mot sur deux, mais il change des versets ou des hémistiches de place. Alors ça donne ceci. Ah voilà. D'abord, au lieu de retit, près des vers Éphraïm retit, n'est-ce pas ce mot? Il a paru bizarre, effectivement, il n'a plus qu'il se trouve une seule fois dans la Bible. Donc s'il se trouve une seule fois, on a tendance à croire qu'il n'a pas le droit d'exister. Alors il dit tout simplement Torati. Ma loi. Quand Éphraïm disait ma loi. D'ailleurs, c'est une correction qui a été reprise il y a 5 ans par le père Tournet, dans un article de l'Art du Bible, et qu'il a pris la correction de Céline, qui vraiment ne s'impose pas. Bon, ensuite. Au lieu de Nassa ou de l'Israël, il dit Nassi. Bon, c'est une correction mineure. Et ça devient, il était prince en Israël. Mais surtout, il intervertit des versets. Ah, mais je crois que j'en ai oublié. J'ai oublié le verset 15, c'est ça. Oui, j'ai oublié le verset 15. J'ai pas le courage de l'écrire aux tableaux. Vous l'avez donné le 15A. 15A, oui, c'est ça. Ah oui, je l'ai donné avec. J'ai pas de secteur. Il intervertit. Il porte le 13. Il porte 13.1A, c'est-à-dire tout ceci, tel qu'il l'a corrigé, qu'il le reporte. Après la phrase suivante, la phrase précédente, il intervertit, si vous voulez, 12-15b. C'est 12-15b. Je suis tombé 14. il reporte tous 15 B après 13-1-A, et alors, encore que, et voilà, et ça donne ceci, avec d'autres corrections, que au lieu de, il a exploité 13-1-B, ici. Ah oui, vous l'avez ici. Voilà ce que ça donne, je lis la traduction Zéline. Mais par un prophète, j'ai conduit Israël hors d'Égypte, et par un prophète, il a été gardé, ça c'est un peu près le texte hébreu. Éphraïm l'a hérité, il a rendu Israël amer, et alors c'est là qu'il passe près d'un A, tant que Éphraïm disait ma loi. Que, vous voyez que d'après Éphraïm thoratique au lieu de retête. Il était prince en Israël, Nassi ou Bel Israël, au lieu de Nassa ou Bel Israël. 13-1-B maintenant. Mais, Yesham, que Céline, je ne sais pas pourquoi le verbe signifie il a péché, et je ne sais pas pourquoi, alors ça j'ai vraiment demandé pourquoi, traduit, il a expié. Il a expié à cause de Baal et il a été tué. Alors ce qui suppose, parce que je ne sais pas pourquoi il a traduit ça, je n'ai pas cherché. Vavriesham, par, qui signifie tout simplement il a commis un péché. Il l'a remplacé par, il l'a retourné, il a expié son péché. Il a expié son péché à cause de Baal, et au lieu de Yamot, et il est mort, il a eu Vavriumat, en changeant les voyelles, et il a été tué. Et il s'agit bien entendu de Moïse. Et alors, maintenant, nous retrouvons le membre de 15B, Vetamar, Alav, il changera, que Céline corrige encore, il corrige la troisième personne, Yitosh, il renversera, qui a dans le texte à pour sujet Dieu, renversera son sang, fera tomber son sang sur lui. Céline le corrige en « Je ferai retomber son sang sur toi ». Il s'agit, le sang de qui, n'est-ce pas, c'est le sang, dans le texte hébreu, c'est le sang d'Éphraïm, mais dans le texte, dans l'interprétation Céline, ça devient le sang de Moïse. « Je ferai retomber son sang sur toi et je te... » Alors là, il comprend, n'est-ce pas, « Et je achive... » Et ici, et je te demanderai compte de l'opprobre qu'il a subi, de l'opprobre qu'il a subi. Je demanderai compte cet esprit, c'est-à-dire ça devient donc dans ce passage de Osée 12, 14, 13, 1, il serait question d'un assassinat de Moïse dont Dieu demandera compte aux Israélites. Enfin, vous voyez par quels artifices, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, n'est-ce pas, par quels artifices Zélie est arrivé à faire dire au texte d'Osée quelque chose qu'il n'a certainement jamais voulu dire et qui n'a jamais été lu dans le texte d'Osée, ni par les anciens traducteurs, ni par les commentaires modernes, dans leur ensemble, à l'exception de Zélie. Et là, je crois que nous avions là le... C'est l'endroit le plus caractéristique dans ce Museum Zayin Abedatum pour saisir la démarche de cette exégète. C'est pas évidemment sur le serviteur d'Isaïe, on peut discuter. Il y a des traits qui pourraient se comprendre comme faisant allusion à Moïse. C'est incontestable. Seulement, j'ai l'impression que Céline les a surévalués. De même, n'est-ce pas, quand il fait un grand état, il peut voir également une allusion à l'assassinat de Moïse dans un personnage, on laisse un personnage, du Deutéro-Zacharie, du livre du prophète Zacharie au chapitre 13, si je ne me trompe, de Zacharie, enfin, où il est question du chapitre 12, d'un personnage transpercé
vers le transpercé du Deutéro-Zacharie. C'est sûrement pas Moïse, mais enfin, c'est équivoque, c'est vague. Là où vous voyez où ça, où Céline pouvait vous les accrocher sans explication, c'était sur ces trois passages d'Osée. Et vous voyez comme il les a fait, comme il a procédé. Encore une fois, ça n'est pas sa faute, si vous voulez, c'était de son temps, en tout cas qui se permettait, il était d'usage en son temps, de se permettre de parler de liberté avec les textes. Et ce qui est arrivé, étant donné l'autorité de Céline, il a pu être pris au sérieux par des gens, si vous voulez, qui n'étaient pas tout à fait de sa profession. Ah oui.
Donc vous avez là le feuillet. Là en somme, il y avait d'autres qui s'est mis à travailler sur une autre façon sur le maître.
Oui, il a travaillé d'une autre façon.
Il a travaillé par l'intermédiaire de la version de septembre. Et il aboutit finalement à un tout autre type de correction.
Oui, voilà, l'interprétation que Céline donne de notre passage en 1928, par un prophète, j'ai mené Israël hors de l'Égypte, et par un prophète, Moïse naturellement, il fut protégé, ça va très bien. Ephraïm l'irrita amèrement. Chaque fois qu'Ephraïm tint des propos querelleurs, alors cette fois c'est retête, qui est tricoté autrement, comme vous dites, elle se
au lieu de ce mot.
Ce mot retête, pourquoi évidemment il était seul dans la Bible, alors il ne pouvait pas exister. Une fois on l'a corrigé en Torah, Maloua et Fanny Zemava, et maintenant Ribot, c'est des propos querelleurs. Dernière correction de Zénith dans son article
des préparatifs. On parle des tours incroyables d'un mot des septembre.
Oui, dit Kayomata.
Oui,
on cherche
les 6 ou 7
mots. Oui, c'est ceci. Dit Kayoma, c'est parfaitement possible. Mais ça ne veut pas dire que les septembre aient lu ça. Chaque fois qu'Ephraïm tint des propos querelleurs, il lui fallut le tolérer en Israël. Anasaru, il le supporta. En Israël. Cette fois, il a gardé le verbe Nassa. Alors, il expia, encore une fois, à cause du Baal, et subit la mort, et mourut. Je rejetterai son sang sur toi, et son opprobre, je te la revendrai. Ça, c'est exactement, c'est sa solution, la même solution qu'en 1921. Voilà, je ne sais pas si... Je vois que le courrier, évidemment, restait très longtemps pour étudier la manière dont Céline a procédé, mais ça risquerait d'être fastidieux.
Dans la pensée de Céline, vraiment, je suis tout à fait incapable de trancher, dans la pensée de Céline, nulle part qui a supposé le texte ayant la portée qu'il déchiffre, et donc restituant un texte ayant un certain sens, il n'est nulle part dit que ce texte, si on peut dire, ou cette localisation, pouvait être comprise de quiconque. Car à vouloir dire, par exemple, que le paragraphe 25 est long, cache l'événement meurtre de Moïse, nous sommes là en pleine ambiguïté,
en plein postulat.
Oui, c'est ça, au niveau de la pensée de Céline, qui je ne pense pas face à la catégorie de la conscience.
Ah non.
Le fait de cacher l'événement de Chétim avec l'histoire d'un personnage qui est pas une histoire d'ailleurs. Qu'il serait si elle le remplaçait effectivement. Nous sommes là, au niveau où quelque chose possible n'est pas tout à fait intact dans le registre de la pensée de cette lumière. Et je crois que c'est évidemment là l'intérêt de la chose, c'est en quelque sorte de voir l'extraordinaire latence que comporte une pareille façon de procéder.
Et oui, on conçoit jusqu'à un certain point que Freud se soit trouvé en quelque sorte renforcé dans l'idée qu'il s'agissait de quelque chose qui ressortait malgré toutes les intentions, malgré la forte résistance à se souvenir, n'est-ce pas, qui serait supposé dans son registre. Mais et il n'en reste évidemment pas moins très étrange que ceci soit supporté par des écrits, que ce soit à l'aide de ces écrits que ça puisse être redéchiffré. Car il y a une chose dont que Jones atteste, n'est-ce pas, c'est que Freud aurait eu, c'est un aurait, n'est-ce pas, aurait eu de l'aveu de celui de lui-même communication. Jones en fait état. Communication du fait qu'après tout, je n'étais pas si sûr que ça. À savoir la chose que vous nous avez indiquée tout à l'heure, que dans la deuxième édition du KAP,
il a laissé tomber l'exégèse que vous esquissez de 1922 pour les chapitres 5 et pour les chapitres 9. C'est-à-dire qu'il a, sur le cas de la mort de Moïse, donc de 12, il a gardé 12. Mais il est question de Moïse seulement. De l'autre côté, je crois qu'il a quand même abandonné son... En tout cas, il a renoncé à mettre en avant son hypothèse de la mort de Moïse, parce que c'est dans ses travaux sur le fameux serviteur mort du Deutéro-Isaïe, le serviteur de Yahvé. L'hypothèse mosaïque, si l'on veut que Zéline soutient en 1922, il a renoncé lui-même expressis verbis. Et depuis, il a changé deux fois d'avis, du reste à la suite de ça, sur le serviteur. Donc il a abandonné complètement. Le serviteur n'est pas Moïse. Surtout, il semble avoir, évidemment, il a peut-être gardé cette idée du mort de Moïse, mais a renoncé à s'en servir, si vous voulez, pour interpréter les champs du serviteur.
Oui. Je me demande si Freud n'a pas été victime du prestige académique de Zéline.
Je ne sais pas, mais il y a peut-être des beaux livres, vos oreilles de médailles, par lesquels il est tout
vrai.
C'est faux, mais en vrai, de
l'écoute. Je ne crois plus dans rien cette articulation. Il signale simplement qu'il y a un homme Zéline qui récemment a émis l'hypothèse de recevable qu'il serait tué. Et il le signale par ce club très court qui indique la référence sans rien d'autre, c'est ça, la référence de l'opuscule de 22, et rien de plus. Alors, je l'ai signalé tout à l'heure, parce que j'ai oublié de le faire jusqu'à présent, que Jones mentionne que dans un ouvrage de 35, c'est-à-dire encore postérieur à ce que nous avons pu vérifier nous-mêmes, dans un ouvrage de 35, il maintiendrait sa position.
Oui, mais comme je pourrais retrouver la Geschichte des Israelitischen je pourrais peut-être la retrouver encore quelque chose. Je vous enverrai la
réglementation. Qui est vraiment conjoint et rapproché de enfin, la nouveauté d'Osée, je ne sais pas si j'ai bien entendu, c'est en somme cet appel d'un type très très particulier, n'est-ce pas, car j'espère qu'après ça, tout le monde va quand même chercher une petite Bible, n'importe laquelle d'ailleurs, simplement d'avoir une idée du ton que ça a osé, n'est-ce pas. Qui est celle de la parole de Yahvé parlant à son peuple. Dans la loi du snob, j'ai déjà indiqué, quand j'ai parlé d'Osé, avant d'avoir le livre de Céline, j'ai dit, moi, dans Osé, j'ai jamais rien lu qui ressemble même de loin à ça, mais par contre, je vous ai signalé au passage l'importance du fait de l'objectif, de l'invitation, de rite, de prostitution sacrée, qui vont d'un bout à l'autre. Et alors, la mise en opposition à cela, d'une sorte d'invite, par où Yahvé se déclare. Alors, l'époux, et on peut dire que là commence, enfin, c'est une espèce de longue tradition assez mystérieuse, je veux dire, en elle-même, qui donc ne m'est pas apparue à moi-même avec évidence que nous puissions vraiment citer le sens, qui fait par exemple du Christ l'époux de l'Église et inversement de l'Église. Ça commence là, mais il n'y a pas de trace de ça dans le système. Et alors le terme qui est employé pour époux, c'est-à-dire celui que nous allons regarder ensemble, le terme de ish, qui est celui-là même qui est employé au second chapitre de la Genèse, au moment où le ish en question dénomme sa conjointe, non pas la première dont on parle, c'est-à-dire à 27 du premier chapitre, où Dieu les crée mâle et femelle, si j'ai bien dit, c'est mâle et femelle. Ensuite, dans la seconde version, puisque les choses sont toujours répétées de l'histoire dans la Genèse, c'est Ish qui dénomme l'être parfait sacré, n'est-ce pas? Je suis partiel, comme tu l'appelles, mais le dénomme dit ça, comme par hasard, il va lui ajouter un petit pain.
Des exceptions du Yiddish qui est l'homme en général, mais alors dans
c'est ça,
les
sens,
c'est je crois que ce n'est pas plus étonnant quand allemand on dit mein Mann pour mon mari,
c'est ça,
ce qui est parfaitement correct, alors qu'en français mon homme plutôt familier.
C'est ça. Alors que dans le même, au vert, c'est n'est-ce pas? Que ceci voudrait être appelé mon époux, n'est-ce pas? Et vraiment rapproché de la réputation du terme Baal,
oui,
à l'occasion d'avoir le même sens.
Oui,
le Seigneur a dit,
qui est le sens, qui est plus juridique, alors dans ce sens, le rapport de Baal, c'est le maître.
Et on peut regarder, ça peut réaliser au féminin de Béoula.
Béoula, c'est la première lettre de la puissance de Marie.
Oui.
C'est extrêmement flottant. Les vocabulaires.
Non, mais
la terminologie, de manière évidemment à jouer sur l'opposition de Yahvé qui est le Baal en opposition au Baal étranger. C'est moi qui suis ton Baal. Je n'ai donc pas à courir avec des
barils.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas une espèce de démythisation, c'est-à-dire de transfert sur la collectivité Israël, au fond, de la déesse qui est le parèdre, la femme du Baal dans les religions sémitiques. Aïe, aïe.
Ertel-Kepay, par moment Israël, n'est-ce pas, est bien décrit presque comme une déesse.
Non, mais c'est pas...
Ça, c'est possible.
Ça, vous en avez alors
oui. Là, ça n'avait jamais été dit, mais alors j'ai
Pour d'autres symptômes, quelque chose de ce que j'avais commencé à annoncer tout à l'heure.
On reste dans les cadres de mentalité, n'est-ce pas, des religions. C'est différent de qui ne conçoit pas un Dieu sans sa déesse. Mais en Israël, on a l'impression que la religion prophétique, si vous voulez, remplace la déesse par Israël. Ce serait le cas de l'autre, on remplace par le
Je pense que c'est un bon qui est annoncé, mais tout le monde va rester là, c'est un peu plus de la